Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate!
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on se retrouve avec Lior, Priel et Alexia pour parler d'antisémitisme. Bienvenue à toutes. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour celles et ceux sur le chat qui ne vous connaissent pas encore. Lior, je t'en prie, tu peux prendre la parole.
Ah, ok. Moi, c'est Lior, j'ai 28 ans, je suis prof dans un collège et en parallèle, je termine ma terre 2 en recherche en histoire.
Ok. Priel, est-ce que tu veux te présenter? Bon, Alexia?
Que ça marche pas.
Mais ça marchait il y a une minute. Bon, on va passer à la suite. Donc ce soir, on parle d'antisémitisme, et avant de développer le sujet, je vous propose qu'on écoute Lior, qui nous a fait une introduction pour retracer l'histoire de l'antisémitisme en Occident, du Moyen-Âge à nos jours. Donc Lior, je t'en prie, c'est à toi.
Ouais, donc du coup, comme je disais, moi je suis en master de recherche en histoire, et ma spécialité c'est l'histoire des Juifs. Mais forcément, quand on étudie l'histoire des Juifs, on est un peu obligé de s'intéresser à l'histoire de l'antisémitisme, malheureusement, parce que c'est intrinsèquement lié, en fait, dans le sens où les Juifs existent depuis plus de 2000 ans, mais l'antisémitisme aussi, et dès le début, en fait, de l'histoire des Juifs, ça a beaucoup façonné leur histoire, leur déplacement dans le monde, et même au niveau culturel et religieux. Du coup, même au niveau religieux, parce qu'il y a une bonne partie des fêtes religieuses juives qui basent leur origine sur des histoires de lutte contre l'antisémitisme, comme Purim ou Pessah, qui sont deux exemples assez flagrants. Donc, je vais essayer de faire un petit historique de l'antisémitisme, sachant que c'est plus de 2000 ans d'histoire, ça pourrait être super long, mais je vais essayer de le faire un peu en raccourci. On connaît tous l'histoire originelle avec Moïse et le peuple hébreu réduit en esclavage. Donc, je pense que dès le départ, on voit que c'est forcément lié à une question d'antisémitisme. Et par contre, le Moyen-Âge, désolé, mais l'antiquité et tout, c'est pas trop mon truc. La diaspora juive, on l'estime à peu près 70 après Jésus-Christ avec la destruction du temple. Et donc, c'est là que les Juifs ont commencé à aller un peu partout dans le monde. Je vais faire un bond, du coup, comme je disais, directement au Moyen-Âge. Donc, le Moyen-Âge, pour ceux qui ne situent pas trop, c'est entre le 5e et le 15e siècle. Donc, ça fait déjà un bail déjà. C'est un peu l'origine de l'antisémitisme d'aujourd'hui, dans le sens où il y avait un anti-judaïsme chrétien très, très présent. Et en fait, c'est pendant le Moyen-Âge que vont se fixer les stéréotypes contre les Juifs qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est important de mentionner le Moyen-Âge. Les stéréotypes comme le fait que les Juifs aiment l'argent, ou qu'ils sont riches, ou qu'ils travaillent dans les finances, ça date déjà du Moyen-Âge. Du coup, particulièrement à partir du XIIe siècle, il y a une forte christianisation en Europe, et avec notamment les croisades. Et c'est à partir de là que les Juifs vont être cantonnés aux fonctions financières, donc banques, prêts, impôts, etc. Et qui vont être, déjà à l'époque, ils étaient exclus des villes, donc ils étaient, mais en parallèle, ils n'avaient pas le droit à avoir des propriétés non plus, donc ils étaient en périphérie des villes. Et donc ils vont se lancer aussi dans le commerce, parce que c'est un peu ce qu'il leur reste. Ok. À partir du XIVe siècle, il commençait à avoir beaucoup d'expulsions, notamment en France. En plus, c'est aussi le siècle de la peste, donc qui va un peu décimer l'Europe. Et c'est là aussi que du coup vont commencer à naître aussi des rumeurs sur les Juifs qui seraient responsables de la peste, qui auraient empoisonné des filles, et d'ailleurs qui auraient été pas touchés par la peste. Et c'est encore quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui, que les Juifs ont pas été touchés par la peste, ce qui est complètement faux. Et en fait, tout ça, ça va culminer au XVe siècle avec l'Inquisition espagnole et un truc très important, c'est en 1492 l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et en fait, c'est un événement assez important parce que bah ils étaient beaucoup et du coup ils vont se répartir un peu sur tout le pourtour méditerranéen, pardon. Donc en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans l'Empire ottoman et puis même en Europe, dans les Balkans, en Italie et même juste en Allemagne et en France. Ensuite, on passe après le Moyen-Âge donc à partir du XVIe siècle, et c'est au XVIe siècle qu'il va y avoir le premier ghetto. Et en fait, quand on entend ghetto, aujourd'hui, on pense souvent au ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais en fait, les ghettos, c'est quelque chose qui existe depuis le XVIe siècle. Et donc, le premier, c'était à Venise. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les Juifs étaient exclus des villes et du coup ils devaient vivre dans les périphéries. Ça se voit notamment à Budapest. Si vous allez aujourd'hui à Budapest, le quartier juif actuel à Budapest, c'est un quartier qui a été créé il y a des siècles, et en fait il a été créé à cet endroit-là parce que c'était au bord de la ville, mais pas dans la ville de l'époque. Et donc à Venise, ils ont créé le premier ghetto au début du XVIe siècle. Et le but, c'était encore une fois d'isoler les Juifs de la ville pour pas qu'ils empoisonnent les puits, etc. Et donc, du coup, ils sont dans une zone restreinte qui se ferme avec un portail en fer. Et du coup, on peut encore le voir, le portail, d'ailleurs, si vous allez à Venise. Dans certains endroits aussi, comme par exemple dans l'Empire austro-hongrois, juste hongrois d'ailleurs, il va y avoir des sortes de quotas, en fait, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait trop de Juifs dans l'Empire. Donc, du coup, chaque famille, peu importe le nombre d'enfants qu'ils ont, il y a qu'un enfant qui aura le droit de rester sur les terres, et les autres enfants, ils devront quitter l'Empire. Donc ça, pour éviter qu'il y ait trop de Juifs, en fait. Donc ça va aussi créer beaucoup de migrations et de mouvements, du coup, parce qu'ils sont obligés de quitter l'Empire. Ensuite, 18e siècle, pour la France, comme vous savez, c'est un siècle un peu compliqué, surtout la fin du siècle avec la fin de la royauté, etc. Et la France va faire un peu figure d'exception parce que ça va être les premiers en Europe à émanciper officiellement les Juifs. Donc en 1790, c'est Napoléon qui va faire un décret pour émanciper. Donc on appelle émancipation, ça veut juste dire en fait que concrètement, ils vont avoir les mêmes droits que tous les autres citoyens, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc du coup, ça a été un peu, ça a été très tôt par rapport au reste de l'Europe. Et voilà. Et du coup, après, on rentre dans le 19e siècle. Et le 19e siècle, vous savez, c'est un siècle aussi où il se passe beaucoup de choses. D'un côté, il y a les nationalismes qui montent. Et d'un autre côté, il y a l'industrialisation. Et pour les Juifs, il y a beaucoup d'endroits, en fait, qui vont émanciper leurs Juifs. Enfin, beaucoup d'empires et de pays qui vont commencer à émanciper les Juifs, comme en France, juste avant. En Allemagne, c'était l'Allemagne à l'époque, et ça va se faire progressivement jusqu'à 1870, où il va y avoir l'unification d'Allemagne, et du coup là, les Juifs vont être officiellement émancipés aussi. Dans l'Empire austro-hongrois, en 1867, donc à peu près en même temps, et pour l'Empire russe, par contre, ça sera attendu à l'an 1917 pour être émancipé. Pendant le 19e siècle, il y a la disparition progressive des ghettos. Il y a aussi une sorte d'assimilation dans beaucoup d'endroits, sauf dans l'Empire russe, mais on y reviendra. Donc par assimilation, on veut dire donc émancipation, donc en théorie même droit que les autres, c'est pas forcément toujours le cas en pratique, notamment pour la France, en théorie ils sont émancipés, en théorie Napoléon va monter un consistoire, donc en fait il va y avoir un vrai contrôle national des institutions juives qui se voit encore aujourd'hui en France, hein, c'est pas par hasard. Donc assimilation, c'est-à-dire que voilà, il va falloir un peu quitter falloir être un peu moins juif, un peu plus patriote, un peu plus français. Et je pense que c'est important de noter, parce que je disais tout à l'heure que le 19e siècle, c'est le siècle de la montée de nationalisme, mais le nationalisme ne va pas être partout pareil, dans le sens où en France, on avait un nationalisme qui était assez engloutissant, c'est-à-dire que on engloutit les gens pour qu'ils deviennent des Français type, correspondent à la nation. Donc en fait, ils peuvent devenir Français si en contrepartie ils acceptent en fait d'abandonner toute leur spécificité culturelle, religieuse ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qui va se passer pour les Juifs en partie. Par contre, par exemple, en Europe de l'Est, c'est un nationalisme mais complètement exclusif, c'est-à-dire que si on fait pas partie de telle ethnie ou telle nation, on peut pas y rentrer en fait, c'est juste pas possible. Donc du coup en France, voilà, ils vont se faire un peu assimiler, donc ça va se passer, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un peu compliqué, il y a eu plein de figures différentes, mais grosso modo ça va quand même améliorer les conditions de vie des Juifs en France, même s'ils n'ont toujours pas accès à beaucoup de choses, ils n'ont pas accès à des postes très haut placés, ils n'ont pas accès pour l'armée, c'est compliqué encore. Je crois qu'ils vont avoir le droit de rejoindre l'armée, c'est seulement à la fin du 2017, si je me souviens bien. Des choses comme ça. Si on va dans l'Empire austro-hongrois ou dans l'Empire allemand, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que même s'ils commencent à accéder un peu à des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions socio-économiques, certains vont réussir à rejoindre la bourgeoisie. Mais ils restent en fait quand même très mis à part. C'est-à-dire qu'il y a des études aujourd'hui encore qui nous montrent que même s'ils parvenaient à atteindre la bourgeoisie, même s'ils étaient plus ou moins assimilés, au point de même parler la langue, parce que je rappelle que par exemple en Allemagne, à la base, leur langue, c'était pas l'allemand, mais le yiddish, donc ils ont parlé allemand, mais en fait, malgré ça, ils ont en fait très très peu de socialisation en dehors de la communauté juive. Et vice versa, c'est-à-dire que la communauté non-juive n'a pas non plus spécialement envie de trop socialiser avec eux. Donc voilà, et donc ça, ça a vraiment une inscription aussi culturelle et historique, et c'est là aussi que va naître aussi un peu le mythe du juif déloyal, parce que voilà, c'est en lien avec le nationalisme, et l'idée du juif errant, nomade, mais ça c'est, comme on l'a vu, les juifs n'étaient pas nomades, ils étaient sédentaires, mais, enfin pour la majorité en tout cas, mais voilà, du fait que de leurs différentes expulsions et de leurs conditions de vie, ils ont quand même dû beaucoup bouger, et ils vivaient en général, ouais, comme tu disais, en périphérie, surtout à l'est. Voilà, le 19e siècle, le nationalisme. Donc, le nationalisme, en gros, qu'est-ce qu'elle est des unités qui est dans quelle nation? En gros, c'était premièrement un peu géographique. Deuxièmement, c'était la langue et ensuite la religion. Enfin, pas forcément dans cet ordre-là, mais en gros, c'était les trois points principaux. Du coup, tous les groupes vont un peu vouloir avoir leur propre nation, comme on sait. Donc, ça va être un peu la fin de certains empires qui vont créer des nations à la place. Mais les Juifs, ils sont un peu au milieu, et alors ils n'ont pas forcément la même langue. Surtout à l'Est, ils parlent yiddish, pas forcément. Même si certains parlent aussi polonais ou russe, leur langue première, c'est yiddish. Ils ont une autre religion, donc ils sont une sorte de nation. Mais par contre, ils n'ont pas l'unité géographique, contrairement à d'autres groupes. Même si les autres groupes, par exemple, si on va en Pologne, ils étaient un peu mélangés entre les Allemands, les Polonais, les Ukrainiens, etc. Mais au fil du temps, en fait, ils se sont un peu homogénéisés. Sur le territoire. Donc les Juifs, c'est un peu compliqué parce que du coup, eux, ils n'ont pas d'unité territoriale. Donc, ils se retrouvent un petit peu au milieu de tous les conflits nationaux et ils savent pas trop. Voilà, il faut qu'ils choisissent un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. En France, c'est un peu différent du coup parce qu'il y a déjà plus ou moins la France qui existe comme unité et avec les Juifs qui ont été du coup un peu engloutis à l'intérieur depuis Napoléon. Et du coup, déjà à l'époque, les Juifs de l'Est, par exemple, ils disaient, il y avait une expression qui disait « heureux comme un juif en France », parce qu'il y avait cette idée qu'en France, déjà, il y avait les Lumières, etc., mais en plus, les Juifs étaient mieux acceptés et compagnie. Et les Juifs français eux-mêmes avaient, je pense, pour certains, en tout cas, cette impression aussi, se revendiquer français, etc. Et en fait, tout ça, toute cette illusion va un peu tomber à l'eau avec l'affaire Dreyfus, évidemment, en 1894. Donc l'affaire Dreyfus, je rappelle, c'était un, je sais plus son grade exactement à l'armée, qui a été accusé de trahison et qui était juif évidemment. Et en fait, c'est révélé que c'était pas du tout lui qui avait trahi, mais en fait, ça a révélé un antisémitisme en France. Et du coup, ça a un peu inquiété tous les autres juifs d'Europe parce que si en France on en arrive là. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste? Un autre truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu, qui depuis le Moyen-Âge, mais qui continue jusqu'au XXe siècle, c'est l'accusation des meurtres rituels. Ça a commencé déjà au Moyen-Âge, où les Juifs étaient accusés d'assassiner souvent des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons pour leur sang, enfin bref, pour des crimes rituels. Et ça a créé beaucoup de pogroms. En fait, ça a été des bases pour beaucoup de pogroms. Parce que dit qu'un enfant s'est assassiné, c'était les juifs du village d'à côté. Et du coup, même si en France, il n'y en avait plus depuis longtemps, en 1894, ça a un peu réveillé cette peur. Par contre, à l'Est, il y en avait encore. Il y en a une très célèbre, c'est en Hongrie, en 1884, une jeune femme qui s'appelait Esther qui a été assassinée. Et pareil, ça a été 14 juifs qui ont été accusés, etc. Et donc, en général, ça entraînait des tortures, des massacres, des villages entiers brûlés. Et voilà. Et donc, cette histoire en Hongrie qui a fait aussi beaucoup couler d'encre à l'époque. Donc, 1884, c'est quand même relativement tard, on est plus au Moyen-Âge. Et c'est encore quelque chose qui est présent dans la culture hongroise. Il y a même un livre d'un grand écrivain qui a écrit un livre là-dessus, bref. Le dernier, quand je dis que ça a duré très longtemps, c'est-à-dire que encore en 1913 aux États-Unis, il y a eu l'affaire Léo Frank, pareil, un juif aux États-Unis qui a été lynché par le Ku Klux Klan. Donc voilà, ça a vraiment traversé le temps et l'espace. Donc du coup, au moment où l'affaire Dreyfus explose, en plus il y a eu toutes ces histoires de nationalisme qui commencent à augmenter, et du coup c'est de là qu'on date le début du mouvement sioniste, évidemment, parce que en 1897 il y a eu une conférence qui est organisée par Theodor Herzl, qui était un juif autrichien, je me semble, en tout cas germanophone, et qui a donc suite à l'affaire Dreyfus, il s'est dit mais en fait il faut qu'on ait aussi une nation territoriale, etc. Et donc c'est de là qu'on date le début du sionisme. Et en parallèle, en même temps, il y a des juifs en Europe de l'Est qui eux se sont dit comment on va régler ce problème, nous on va se dire une nation mais sans territoire. Et donc, à peu près en même temps que le début du sionisme, il y a le début, alors, on dit souvent le bundisme, parce que c'est vrai que c'est le Bund, qui est un parti ouvrier juif, dans l'empire polonais, qui, dans la partie de la Pologne qui appartenait à l'empire russe à l'époque, qui ont commencé à créer ça. Donc, c'était souvent en général des socialistes, des communistes, juifs, qui eux étaient pour une nation. Donc, ils se considéraient comme une nation, la nation juive, mais sans territoire. Donc, ils préféraient continuer à vivre là où ils vivaient. Et ce que ça impliquait pour eux, c'était du coup de pouvoir avoir le droit de pratiquer leur religion s'ils le souhaitaient pas. La plupart n'étaient pas religieux, mais en tout cas, voilà. De pouvoir continuer à avoir leur langue, donc le yiddish, des publications dans leur langue, des écoles dans leur langue, etc. Et des représentations aussi institutionnelles et politiques. Au début du XXe siècle, il va y avoir une grosse vague de pogroms. Il y en a toujours eu, mais là, il y en a une plus grosse en Europe de l'Est. Un des pogroms qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque, c'est le pogrom de Chisinau, qui est aujourd'hui la ville de Chisinau, la capitale de la Moldavie. Donc c'était en 1903, et il y a eu ce pogrom qui a duré 3 ou 4 jours, pareil suite à une accusation de crime rituel. Et en fait, ça va tellement marquer, ça va avoir, ils vont en parler même dans les journaux juifs jusqu'aux États-Unis, parce qu'évidemment pendant le 19e siècle, il y a eu beaucoup d'immigration des juifs d'Europe de l'Est vers l'Ouest, donc vers les États-Unis, vers la France, l'Allemagne et dans une moindre mesure vers la Palestine, mais c'était pas encore très répandu. Et du coup, ça va lancer beaucoup de, relancer beaucoup d'immigration du coup, et aussi beaucoup de peur et aussi un début de documentation. En fait, les juifs d'Europe de l'Est vont entreprendre de documenter les violences antisémites à l'Est, et du coup ça va permettre déjà que aujourd'hui on a des archives et de la documentation là-dessus, mais aussi ça fait que en fait ils ont commencé en 1903 à créer des archives et de la documentation historique sur les pogroms, et en fait ils vont continuer jusque pendant la Seconde Guerre mondiale même, où ils vont continuer ce travail d'archivage et de documentation, et ça c'est une tradition qu'on n'a pas chez les juifs de l'Ouest, donc en France par exemple. Et en même temps, en 1903, c'est aussi l'année où va être sorti le protocole des Tâches de Sion. Donc, vous savez, ce livre qui est apparu dans l'Empire russe et qui prouve à montrer qu'il y a une un complot mondial des juifs qui veulent contrôler le monde, etc. Donc tout ça, ça va encore encourager beaucoup d'antisémitisme. Et donc je vous disais tout à l'heure que l'émancipation des juifs en France, en Europe, pardon, s'est fait progressivement au cours du 19e siècle. Et en Russie, ça va être donc les derniers à être émancipés en 1917, pendant la Révolution russe. Avant ça, tous les juifs en fait de l'Empire russe, ils étaient obligés de vivre dans une zone qu'on appelait la zone de résidence, qui était située en gros aujourd'hui ce serait Biélorussie, Ukraine, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les villes encore jusqu'en 1917 du coup. Ils avaient le droit d'aller à Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg, tout ça, ils pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas aller plus à l'est. Bon, ils ne pouvaient pas aller plus à l'ouest, mais de toute façon c'était la fin de l'Empire russe, donc voilà. Mais voilà, ils étaient obligés de rester dans cette zone de résidence. Ils avaient des mouvements très limités. Et ils avaient des droits très limités aussi. Donc ensuite, c'est la Première Guerre mondiale, je passe dessus, bon bah toute l'Europe est en guerre, et ensuite, en 1918, il y a des gros changements géopolitiques en Europe, géographiques et politiques, et donc beaucoup d'empires qui vont tomber, comme vous savez, des républiques qui vont se former. Et du coup, il y a une légère vague d'espoir pour les juifs, mais pour d'autres minorités ethniques aussi, parce qu'il y a une certaine tolérance qui revient, notamment en Pologne. L'entre-deux-guerres en Pologne, il y a une resurgence un peu de la tolérance envers les juifs, et du coup par exemple les partis de gauche juifs, par exemple le Bund et aussi d'autres, et aussi les sionistes de gauche vont pouvoir un peu reprendre beaucoup d'importance, avoir leurs propres institutions dans les villes, etc. Mais tout ça en fait s'est concret assez rapidement dès 1935 pour la Pologne, puisque donc ça c'était pendant la deuxième république de Pologne du coup, et le général qui était à la tête du pays, Pilsudski, qui est encore aujourd'hui un héros en Pologne, va mourir, et du coup, ça va être ce qu'on appelle le régime des colonels, et ça va retomber dans une sorte de dictature militaire un peu. Là, par contre, l'antisémitisme du coup va remonter en flèche jusqu'en 1939, invasion de la Pologne par l'Allemagne. Et là, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, je passe aussi sur la Seconde Guerre mondiale parce que je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, pour finir rapidement. J'espère que c'est pas trop long, je suis désolée. Après la Shoah, du coup, ça c'est un peu, comme vous le savez, encore une fois, l'Europe a été coupée en deux, Est-Ouest, et du coup ça s'est un peu géré de manière différente, à l'Est et à l'Ouest. Dans les deux cas, partout, ça a été dans un premier temps un très gros tabou en fait, c'est pas quelque chose vraiment dont les gens parlaient, une fois que c'est fini, en fait c'est fini. Et il y a un peu ce mythe que les gens pensent aujourd'hui que l'antisémitisme du coup s'est terminé en 45. Et comme je viens de vous prouver que l'antisémitisme n'a pas commencé en 39, mais des milliers d'années avant, on peut se douter que ça n'a pas fini en 45 non plus. Du coup, après 45, voilà, donc, jusqu'aux années 80-90, ça a été quand même quelque chose d'assez tabou, on n'en parlait pas beaucoup. Les survivants étaient encore là, pour la plupart, encore très jeunes, encore, voilà, c'est encore très vivace hein, pour eux. Il y avait quand même très peu de prise en charge, que ce soit financière ou psychologique ou quoi que ce soit. À l'Est, par exemple, en Pologne, il y a beaucoup de juifs qui se sont fait assassiner, en fait, en voulant rentrer chez eux, après la guerre. Il y a eu encore des pogroms après, etc. Et ensuite, donc, du coup, si on prend le bloc Est, en URSS, les juifs n'étaient pas droits d'immigrer, officiellement, jusque dans les années 80. Donc, il a fallu attendre les années 80 et Gorbatchev pour que ça se, détendre un peu et que du coup les juifs soviétiques puissent quitter l'Union soviétique, et du coup il y a eu une vague de plus d'un million de personnes qui ont émigré, de juifs soviétiques qui ont émigré donc vers l'Allemagne, en bonne partie vers l'Allemagne, les États-Unis et aussi du coup Israël. En Pologne par exemple, il y a eu une grosse vague antisémite à la fin des années 60 par le parti communiste polonais du coup au pouvoir. Suite à la guerre en Israël en 67, il va y avoir une sorte de flambée de l'antisémitisme organisée par l'État. Et du coup, la portion de juifs qui avaient survécu à la guerre en Pologne et qui étaient revenus va quitter la Pologne à ce moment-là. Donc en fait, il y a presque plus de juifs aujourd'hui en Pologne. C'est surtout, en tout cas, la dernière vague d'immigration, c'était en 68. Après ça, donc il y a eu des quotas qui ont été réinstaurés, il y a beaucoup de juifs qui ont perdu leur travail, ils n'avaient plus le droit de travailler dans les universités, ils n'avaient plus le droit de travailler dans la médecine, ils avaient une forte répression, ils étaient arrêtés par la police, etc. Et en fait, l'État polonais leur a fait un deal, c'était très compliqué aussi d'obtenir un visa pour quitter le bloc Est à l'époque. Donc en gros, ceux qui voulaient s'échapper, c'était très compliqué. Du coup, la Pologne a fait un deal avec les Juifs polonais. On leur a dit, on vous donne un visa pour Israël, comme ça vous pouvez partir et quitter la Pologne. Par contre, vous perdez votre nationalité polonaise. Donc c'est ce qui s'est passé pour vous. Voilà. Et par contre, à l'Ouest, en France, par exemple, il n'y a pas eu tout ça, mais voilà, ça a été quelque chose d'encore assez tabou. Et on a commencé, par exemple, la responsabilité de la France pendant la Shoah a été reconnue uniquement dans les années 90. Pour aller très vite aussi en France, il y a eu un autre événement qui a aussi changé le paysage juif en France, on va dire, et je sais qu'il est unique en France. C'est l'arrivée massive des séfarades dans les années 60. Alors, il y avait déjà des séfarades, donc des juifs du pourtour méditerranéen, on va dire, qui étaient déjà là avant les années 60, évidemment. Mais dans les années 60, il y avait une grosse vague d'émigration des juifs d'Afrique du Nord. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50-50 entre juifs d'Europe de l'Est et juifs séfarades, comme on dit. Ce qui est aussi, qui est à peu près une situation unique. Et juste pour terminer, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui existent, évidemment, je ne vous l'apprends pas, je ne vais même pas vous citer les cas les plus récents de meurtres antisémites, parce que je pense qu'on les connaît tous, mais je voulais parler rapidement d'un autre truc qui est assez récent, on va dire depuis peut-être une vingtaine d'années, en tout cas qui s'est renforcé ces dernières années, une sorte de nouvelle forme d'antisémitisme, c'est par rapport aux politiques mémorielles. Qui sont instrumentalisés à peu près enfin, dans beaucoup de pays européens, en France, mais aussi beaucoup dans les pays de l'Est. Voilà, il y a une sorte d'enjeu sur la mémoire de la Shoah et du coup qui est compliqué à vaincre parce que c'est très sournois. On connaît tous le négationnisme par rapport à la Shoah avec des personnes très flagrantes comme Forisson ou David Irving au Royaume-Uni qui avait attaqué en justice une historienne juive américaine pour lui dire qu'en gros, il n'allait pas être pour crématoire à Auschwitz. Donc ça, c'est du négationnisme assez flagrant, mais en fait, il y a une forme de négationnisme très sournoise que beaucoup de gouvernements font un peu en... Ouais, genre sournoisement, quoi. sur des négations de certains points particuliers ou une sorte de réécriture ou une sorte de narration nationale de la Shoah. C'est très flagrant avec le gouvernement polonais aujourd'hui. En Hongrie aussi, en Lituanie aussi, mais ça s'est vu aussi en France avec voilà nos présidents qui payent leur hommage à Pétain ou le ministre de l'Intérieur qui remercie la police pour son rôle de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est des trucs complètement lunaires, mais pourtant qui sont faits par des politiques officielles et voilà. Et ça peut atteindre des degrés assez dingues. Par exemple, en Pologne, avec ça a pris des proportions légales, en Lituanie aussi. Et donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et du coup, cette réécriture nationale, ça fait que même dans la tête des gens autour de nous, ça a un poids. Et on l'a remarqué aussi avec tout le mythe aussi qui est encore très présent aujourd'hui du fait que l'armée allemande, ils étaient gentils et les SS étaient les méchants nazis. Et puis le mythe que tout le monde était résistant. Voilà, ce genre de mythe en fait sur la Seconde Guerre mondiale qui sont encore très présents aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'en reparler pendant 3 heures. Et voilà. Donc j'espère que j'ai bien présenté l'histoire de l'antisémitisme aussi rapidement que possible.
Merci beaucoup pour cette introduction, c'était super instructif. Voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, on essayera de vous répondre. En attendant, j'aimerais qu'on discute un peu de votre relation à l'antisémitisme. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez subi de l'antisémitisme? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez compris que c'était du racisme?
Bah du coup, je sais pas si vous m'entendez, mais du coup, je me présente puisque ça a bugué tout à l'heure. Donc, je m'appelle Alexia, ma famille vient d'Algérie, j'ai 24 ans, je suis en master d'études politiques et je suis aussi membre du collectif des Juifs Vénères. Du coup, pour répondre à ta question... En fait, pour moi, l'antisémitisme, j'ai toujours su qu'il existait. J'ai pas eu un moment particulier dans ma vie où j'ai été prise de stupeur et je me suis dit, merde, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui va pas, il y a une oppression systémique. Ça a toujours fait partie de mon environnement parce qu'en fait, donc toute ma famille vient d'Algérie et ce qui fait que ma famille a à la fois été marquée par l'histoire coloniale, évidemment, mais aussi par l'histoire de la Shoah sous Vichy en Algérie. avec des expériences. Enfin, je sais que deux de mes grands-parents ont vécu les conséquences directes du régime de Vichy, quoi. Donc, ça a toujours plané au-dessus de moi. Et puis, pour ma première expérience personnelle, je pense que c'était... on a eu, en fait, deux à peu près au même âge. La première, c'était que j'ai pris le bus pour me rendre je ne sais plus où. Et je devais avoir 9-10 ans. J'étais avec des copines. Et j'ai entendu un mec qui était dans le bus et qui était pas... Enfin, qui a commencé à péter un plomb tout seul, quoi. Et qui s'est mis à insulter... les gens autour de lui de sale juif, sale bâtard. Et puis, quelques mois avant, en fait, plutôt après, c'était. Mais enfin, disons que c'était. Il y a eu un autre type d'antisémitisme. Du coup, je vivais. J'ai grandi en banlieue de Lyon, moi, et je parlais avec un des enfants avec qui je jouais tout le temps. Et puis, c'est la première fois, en fait, que j'ai explicitement dit que j'étais juive. Et là, il y a le petit frère du pote avec qui je jouais qui est arrivé et on a commencé à taire un peu la conversation. Et du coup, ce petit frère qui devait avoir 7-8 ans pour le coup, il a dit « Non, mais moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que ça veut dire, juif. Hein. Je suis grand. Je sais que ça veut dire radin. » Et du coup, voilà, ça a été les doubles points culminants, je pense, qui ont marqué mon rapport vraiment personnel au truc, enfin, au-delà de la construction... du trauma intergénérationnel en fait qui planait au-dessus de moi depuis ma naissance.
Est-ce que vous avez des histoires similaires ou plutôt différentes à celles d'Alexia ?
Moi, oui. Donc, je me présente aussi parce que tout à l'heure j'étais pas là. Donc, moi, je m'appelle Priel. Je suis juive askénaze, originaire de Russie et de Pologne. Voilà, j'ai 38 ans et je suis chauffeur routier. Et donc moi, mes expériences au niveau de l'antisémitisme à l'école, ça a surtout été des insultes enfants. Mais au collège, on a mis la pression sur ma mère pour me baptiser, en lui disant que ce serait mieux si j'étais comme les autres, que ce serait mieux pour mon intégration. J'ai été harcelée par une prof parce que même baptisée, ça n'a pas changé grand-chose au final. Je suis toujours restée juive pour les autres et surtout pour les profs. Donc ça a été beaucoup d'harcèlement de la part d'une prof en particulier et ça a été tout le collège. Et à la fin du collège, elle m'a dit qu'elle était ravie que je ne devienne pas médecin, par exemple, parce que c'était une obsession pour eux de devenir médecin, quoi, que les juifs sont tous médecins ou avocats. Et moi, ça n'a jamais été ce dont j'avais envie. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même très présent, tout le collège, cette obsession on veut pas que tu sois ce que tu es, mais on va quand même te le reprocher. Et ça a pas été facile à vivre, surtout qu'on était très isolés à la campagne. Donc ça a pas été une période très évidente, quoi. Après le lycée, c'était moindre, quoi. C'était plus des questionnements, pourquoi je faisais un BEP, ce genre de choses.
Donc une christianisation de force qui est passée par un baptême quand même.
Oui, en fait, ils ont mis la pression sur ma mère une fois le collège, enfin une fois la rentrée scolaire faite. Ils lui ont mis la pression pour donc me baptiser. Comme on était isolés, que mon père il était pas là, ils en ont profité, quoi, le diacre et les parents d'élèves, certains parents d'élèves qui s'occupaient de toute la partie chrétienne et cours de religion du collège où j'étais, quoi. Ils ont vraiment profité de notre isolement, quoi. Mais ça, voilà, ça a pas changé grand chose au final dans mon intégration dans l'école, quoi. Parce que j'ai grandi dans une ville de campagne, mais très bourgeoise, donc c'est ça aide pas pour se construire en tout cas.
Ouais, j'imagine. Lior, est-ce que tu veux nous parler un peu ou tu préfères
Ouais, juste rapidement pour dire que au final, oui, ça, une expérience un peu similaire comme Alexia, je pense que ça a été toujours un peu là. J'ai pas énormément de souvenirs de moi enfant, Mais je sais que la première fois on m'a assise pour m'expliquer la Shoah, j'avais 5 ans. Du coup, voilà, ça m'a quand même beaucoup marqué. Et je pourrais pas trop dater les premières fois où j'ai vécu vraiment de l'antisémitisme. Mais quand j'étais à la fac, j'ai retrouvé un journal intime de quand j'étais en primaire. Et quand j'ai dû avoir 8 ans, à peu près, j'ai écrit dans mon journal intime « Oui, aujourd'hui, je me suis disputée avec Jennifer, elle ne m'aime pas, je pense que c'est parce que je suis juive. » J'ai aucun souvenir de cet épisode, donc je ne sais absolument pas d'où venait mon doute là-dessus, et si c'était vrai ou pas. Mais en tout cas, ça montre que, en tout cas, j'avais conscience que ça pouvait être quelque chose pour lequel on pouvait ne pas l'aimer. Voilà, je voulais juste rajouter ça.
On a une question du chat qui demande est-ce que tu sais de quelle obédience était ton collège Priel ? Parce que ça sent l'intégrisme chrétien.
Bah, ils étaient chrétiens. Je sais pas de quel. Je sais que c'était ouais, des chrétiens basiques, quoi. Mais c'est vraiment une pression. Je sais pas comment expliquer, mais ça a été fait quand même. Ça n'a pas été fait dans la violence, tu vois. Ça a été fait un peu, parler avec ma maman qui était toute seule. Ma maman, elle n'avait pas de travail, elle était dans une situation précaire assez importante. Et en fait, elle s'est retournée vers une association de la ville, pour essayer de trouver du travail. Et donc, voilà, ils lui ont mis un peu la pression aussi pour que j'aille dans un établissement privé. Ça a été fait, on va dire, en douceur, mais ça a été fait, d'une volonté de nier qui j'étais. Et tout le collège, ils vont être, toute ma scolarité, ils vont être obsédés par le fait de jamais voir mon père, parce que mon papa, il travaillait loin et il vivait loin. Donc, ça aussi, ça a été une obsession et j'avais souvent le droit à des questions. Il me disait souvent, oh, mais c'est parce que lui ne veut pas nous voir, parce que lui est juif, alors que ça n'avait rien à voir, mais... Voilà, ça a été comme ça tout le collège, en fait. Ça a été une obsession de ma judéité, de la nier, mais en même temps, on me l'a toujours reproché pour ouais. Tout, quoi. On me l'a toujours reproché. On m'a même reproché une autre élève. Il y avait une autre élève racisée, une jeune femme noire. Et ben, on voulait pas qu'on soit amies toutes les deux. Les profs, ils lui disaient non, il faut pas que tu sois amie avec elle. Ils essayaient de nous monter l'une contre l'autre, alors qu'on était que toutes les deux à être pas que françaises, tu vois. Mais ouais. Voilà, ça a été beaucoup de violence psychologique, beaucoup, et pas foncièrement de la part des élèves, mais plus de la part des profs, en fait, vraiment des professeurs, quoi. C'est plus eux, voilà. En même temps, ils voulaient pas que je réussisse à l'école parce que une juive, médecin, avocate, c'est bon, il y en a assez. Mais quand t'es nulle, on te le dit aussi. Enfin, voilà, ça a toujours été très ambigu, en fait. Et du coup, à gérer quand t'es ado, t'es seule, parce que moi, j'étais que avec ma mère, bah, c'est destructeur, en fait. C'est super destructeur, quoi. Même si mon père m'a parlé très tôt d'antisémitisme et que j'en ai très vite perçu quand j'étais avec lui, mais là, je le vivais de plein fouet sans vraiment comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Moi, j'ai grandi en Normandie. Le 50e anniversaire du débarquement, ça a été une année, pour moi, ça a été terrible, quoi, parce que il n'y a jamais eu un mot pour les Juifs. Par contre, on m'a reproché, on m'a dit, ouais, la Seconde Guerre mondiale, c'est de la faute des Juifs, c'est à cause de toi que la Normandie a souffert, c'est à cause de vous qu'on a perdu de la famille. Voilà, c'est un ensemble de choses, choses que j'ai vécues particulièrement au collège.
Je rebondis à un commentaire du chat qui dit « C'est étonnant, j'étais dans une institution catholique et toutes les religions étaient acceptées. » Il semblerait que ce soit pas généralisé dans tous les établissements privés.
J'étais à la campagne aussi. Hein. Moi, j'étais à la campagne. Hein. J'étais pas dans une ville de 100 000 habitants. Hein. J'étais vraiment à la campagne. Et il y a une grande différence entre la campagne et même une ville comme Caen, qui est, tu vois, je connais d'autres personnes qui étaient à Caen qui n'ont pas eu de problème. Mais la campagne, ouais. C'était, et je parle des années 80, hein, début 90, hein, ouais, tu vois, ouais. C'était encore une autre période. Hein. Et il faut voir que moi, j'étais en Normandie, et donc la Seconde Guerre mondiale, c'est omniprésent donc là où j'ai grandi, c'est omniprésent tout le temps, toute l'année. Donc pour eux, voilà, c'était pas possible de. Ils ont essayé, après ça a fonctionné, comme je l'ai dit, parce que j'étais isolée, tu vois. Peut-être que s'il y avait eu mon père, ça se serait passé différemment. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'étais pas la seule élève à avoir été poussée à me baptiser. Mais moi, je l'ai été parce que j'étais juive. C'est juste la différence avec les autres élèves.
Oui, et d'ailleurs, à ce propos, par rapport à ton vécu en collège chrétien, enfin, du coup, moi, j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée dans un établissement chrétien. J'étais pas en campagne, j'étais en banlieue de Lyon, donc c'était quand même rattaché à une grande ville, quoi. Et bon, on m'a pas baptisée de force pour le coup, mais il y a vraiment cette volonté. Enfin, moi aussi, j'ai ce vécu de volonté de christianisation des juifs, quoi. Enfin, mes parents m'ont, enfin, du coup, avaient une sorte de, enfin, avaient explicitement dit au directeur que j'irais pas à des cours de catéchisme parce que voilà, j'étais juive. Et en fait, donc du coup, pas de cours de catéchisme. Par contre, le directeur a dit à mes parents, voilà, il y a un cours de religion, par contre, elle est obligée d'y aller puisque c'est un cours de toutes les religions. Donc bon, bah voilà, mon père, ma mère disent que ok, je vais y aller. Et il se trouve que toute l'année, en fait, le cours de toutes les religions, c'était le cours de tous les courants chrétiens, mais de rien d'autre, en fait. Et donc il y a toujours cette idée de vouloir domestiquer la conscience juive, en fait, des élèves en établissement chrétien.
Oui.
Ouais, complètement. Oui. Merci beaucoup pour vos témoignages, c'était très intéressant. Il y a Michou qui demande est-ce que vous parvenez à parler d'antisémitisme dans vos familles ?
Moi, oui, avec mon père. Avec ma mère, c'est un peu plus délicat parce qu'elle a une situation familiale très complexe parce qu'elle fait partie des vieilles familles juives de France et du coup, c'est assez compliqué pour elle d'en parler. Mais bon, c'est. J'en parle plus avec vous, en fait.
Et vous, Alexia et Lior?
Bah pour moi, du coup, j'ai. Enfin, du côté de mon père, il y a une. Enfin, tout le monde se sent juif, mais disons que du côté de mon père, l'assimilation a été assez forte. Enfin, l'impact de la colonisation a été très fort. Donc, il y a plus de problèmes à parler d'antisémitisme. De ce point de vue-là, mais du côté de ma mère qui vient du Mzab, en fait, donc une partie de l'Algérie qui a beaucoup moins été impactée par la colonisation et qui du coup a une double conscience extra-occidentale, l'antisémitisme ça a toujours été un sujet de conversation, enfin tout le temps, et on m'a vraiment élevée dans l'histoire de la judéité et dans. Enfin, on m'a vraiment infusé du côté de ma mère une conscience juive très forte. On m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse attention et que même si je cherchais à m'assimiler, et c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais en collège et lycée catho, bah, j'ai vécu ma judéité comme un poids, en fait, et j'avais honte d'être juive et je cherchais à le cacher. Et du côté de ma mère, on me disait tout le temps que même si je cherchais à le cacher, de toute façon, ce sera toujours utilisé contre moi, d'autant plus que mon famille est très très juive, donc... Donc voilà, ça a toujours été là sur la table et ça a toujours été un truc qu'il a fallu que je m'approprie en fait, parce que je savais que ça c'était pas une variable anodine à mon propos, quoi.
D'accord. Et toi, Léa?
Ouais, on en parle. Moi, du côté de mon père est pas juif, mais j'ai pas de famille en fait, c'est mon père. Donc voilà. Du coup, ma seule famille en fait, c'est du côté de ma mère, qui eux aussi, du coup, sont juifs d'Algérie. Pareil, mes grands-parents sont très religieux. Ma mère a grandi dans un foyer très religieux. Elle-même est pas très religieuse, mais voilà. Et du coup, ouais, comme Alexia, une conscience juive très présente, et on a toujours célébré toutes les fêtes juives, etc. Donc ouais, c'est quelque chose dont on parle. Et ma grand-mère, je pense à une légère obsession avec l'antisémitisme et surtout avec la Shoah. C'est vraiment quelque chose, je pense qu'il y a une part de trauma hein, vraiment là-dedans. C'est quelque chose dont elle va parler très souvent. Je me souviens une fois d'avoir invité un ami à la fête de Hanouka, un ami juif, et une des premières questions qu'elle lui a posées, c'est est-ce que tu as déjà lu des livres sur la Shoah? Enfin voilà, c'est vraiment un truc, voilà, avec ma grand-mère, faut, faut avoir le cœur, quoi, parce que c'est quelque chose de très, très récurrent. Donc, ouais, ouais, parler d'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, même en famille, au repas de famille, ça va être, toujours être quelque chose qui revient, en tout cas, qui revient dans les débats, même avec les cousines, c'est quelque chose dont on va discuter entre nous, des fois, ouais.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez de subir de l'antisémitisme et quelle forme il prend ? Alexia, peut-être ?
Oui, bah du coup oui, je continue à de subir l'antisémitisme. Le souci, c'est que comme Laure le disait, enfin dans son introduction, c'est l'antisémitisme qui est vraiment très très vicieux, très insidieux. Enfin des exemples, il y a toujours ces clichés de voilà, les juifs font de la thune, les juifs contrôlent le monde des médias, mais il y a aussi, enfin ou même, je sais pas, j'ai des exemples perso à enfin, j'en ai pas mal à tirer. Je sais pas. J'étais allée voir un psy, fin de la fac une fois, et je lui avais dit que je ressentais de la pression à mener un parcours académique qui soit, enfin, qui puisse satisfaire ma famille, et que je ressentais de la pression vis-à-vis de ça. Et il m'avait répondu, ah oui, j'imagine qu'il travaille dans la finance. Il va y avoir un impératif économique de réussite derrière. Il y avait des trucs comme ça. Ou pas plus tard qu'hier, un mec de ma promo. M'a sorti qu'en gros, ça y est, on en a marre du point Godwin, parce que j'ai parlé d'eugénisme en cours, et il m'a dit voilà, on en a ras le bol du point Godwin, on a assez entendu parler de la Shoah. Ou alors un serrurier qui est venu chez moi il n'y a pas longtemps et qui m'a dit en voyant une magaine David, enfin une étoile de David du coup, sur le mur de mon studio, ah, vous savez, moi je respecte beaucoup les gens de votre race. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Ça ne va pas forcément être dans l'attaque vraiment violente, physique, mais ça va être des assignations constantes, en fait, et des rappels toujours vicieux, ou alors une fétichisation de la judéité, parce que c'est un truc tellement abstrait, déterritorialisé, opaque, et un peu mysticisé, du coup, qu'en fait, il y a une espèce de... J'ai l'impression que les gens ne voient pas qu'il n'y a pas une judéité, mais qu'il y a des judéités, en fait, et qu'on parle de choses, qu'il y a une espèce de je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un bloc, en fait, dans l'esprit des personnes qui sont pas juives et qui perçoivent, en fait, la judéité comme une espèce d'élément qui nous extrait hors du temps, et que du coup, enfin, on n'est jamais vraiment français, on n'est jamais vraiment, je sais pas, je suis souvent, enfin, on m'a souvent déjà dit aussi que j'étais pas vraiment algérienne, et que du coup, il a fallu que je sorte le nom de famille de ma mère qui a consonance amazigh pour qu'en fait je gagne en légitimité de nord-africanité. Donc, il y a toujours ce truc de les juifs sont pas vraiment d'ici, mais du coup, en fait, ils sont d'où, concrètement. Donc, c'est ce type de choses-là, c'est aussi l'idée que les juifs soient blancs alors que. Je vais pas refaire l'historique de l'antisémitisme, de l'antisémitisme racial en France, de la racialisation des juifs, mais quand même, avant même la Shoah, l'Église chrétienne a pendant des années représenté les juifs avec une série de phénotypes bien précis qui étaient censés représenter le mal, l'immoralité. Après, ça s'est matérialisé dans l'anthropologie racialiste où concrètement. Puisque les juifs ont été se sont assimilés en fait via l'émancipation, il y a eu une vraie volonté de vouloir reconnaître, de vouloir identifier les juifs dans l'espace public. Donc ça s'est matérialisé par dans cette anthropologie là par l'idée que les juifs avaient les cheveux bouclés, les lèvres charnues, les yeux noirs, un gros nez, enfin toute une espèce de figure sociale qui se dessine dans l'imaginaire collectif, qui fait que il y a vraiment une figure juive en fait qui est en arrière-plan et à laquelle on nous réassigne. Et enfin, dire qu'il y a pas que les juifs sont blancs en France, je pense que c'est vraiment juste fermer les yeux sur toute une histoire de racialisation des juifs en Occident. Et puis c'est un non-sens en fait. Pour moi, c'est juste incohérent, et c'est ça qui est particulièrement difficile, je trouve, c'est d'avoir tout cet historique là et puis ces réassignations et cette désignation d'altérité qui a vraiment qui m'a accompagnée toute ma vie, notamment en établissement catho, et qu'en fait c'est comme si on nous dépouillait de la possibilité de se défendre, en fait, si on nous dit que on n'est même pas discriminé, en fait, alors qu'on vit cette discrimination quand même. Donc voilà,
Je voudrais revenir un instant sur le fait que tu disais que tu subissais pas d'antisémitisme violent aujourd'hui. En tout cas, pas physiquement violent, je veux dire. Dernièrement, je me suis sortie un peu de mon petit cocon de gens de gauche pour rejoindre le monde. Et c'était beaucoup plus violent que... Enfin, c'était horrible. J'étais en vocale il n'y a pas très très longtemps et on m'a sorti des insultes de « je chie dans ta kippa, je chie sur le mur des lamentations » et « putain juive ». Enfin, je ne vais pas le faire... je ne vais pas toutes les faire, mais enfin, c'était d'une violence inouïe. Et peut-être le lendemain, on m'a encore dit « Ah, c'est bizarre de voir une juive, parce que d'habitude, on vous voit que dans les médias. » Et ça dure comme ça depuis que je côtoie d'autres personnes. Et j'avoue que j'ai pris une sacrée claque dans la gueule la semaine dernière. Du coup, l'antisémitisme, ça peut aussi aujourd'hui encore être d'une violence inouïe, dès l'instant que on sort un peu... de nos milieux, je voudrais dire.
Oui, bien sûr, je pense que j'ai pas précisé, mais effectivement, t'as raison. Enfin, c'est juste que moi, ça fait quelques années que j'ai commencé à essayer d'éviter la confrontation avec des milieux trop violents, mais c'est évident que pour moi, l'antisémitisme systémique se manifeste par plusieurs couches, en fait, par plusieurs types de matérialité. Donc, en tout cas, je comprends tout à fait et je soutiens tout à fait ce que tu viens de dire. Enfin, ça fait sens pour moi, complètement.
Mais il est omniprésent, hein, l'antisémitisme, parce que moi, je côtoie quand même pas mal de gens qui font pas partie de milieux militants ou quoi, et c'est des réflexions, c'est constamment, quoi. Constamment, t'es dans un repas avec des gens que tu connais pas, on te demande si tu manges du porc, tu dis non, et ils vont te demander si t'es musulmane, tu dis bah non, je suis juive, et la seule réponse que tout le monde va dire, ah bah c'est pire! Continuellement en train de se servir des uns contre les autres. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez présent dans la vie d'adulte à gérer au quotidien, quoi. On te compare très souvent aux autres communautés, alors que chaque communauté est différente et a une histoire bien spécifique. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu dans le vécu antisémite adulte, quoi. Je trouve.
Oui. Oui, complètement. On a une question du chat de la part de Michou. Est-ce que vous avez l'impression que l'antisémitisme contemporain est entendu et reconnu par la population générale d'une part et par les mouvements antiracistes d'autre part ?
Bah non.
Une réponse claire et limpide. Merci beaucoup.
Je suis assez d'accord.
Est-ce que vous voulez qu'on développe un petit peu peut-être ?
Oui, bien sûr. Je sais pas. Enfin, bon, pour ma part, je pense que dans la population générale, il y a l'idée, comme le disait Lior, que l'antisémitisme s'est terminé en 45, alors qu'en fait, il s'est juste redéployé autrement, en fait, hein, dans des formes alternatives, dans le fait qu'on nous demande de nous positionner continuellement par rapport au conflit israélo-palestinien. Pour moi. Je pense que beaucoup de gens ont une méconnaissance en fait des enjeux et surtout des tropes en fait classiques d'antisémitisme qui ont des siècles d'histoire sur le truc que les juifs contrôlent le monde ou qu'on dispose je sais pas quelle part des médias dominants, bon bah c'est pas nouveau et pourtant il y a quand même une partie de la population qui le croit, donc pour la population générale voilà, et puis pour les milieux activiste antiraciste, moi je pense qu'il y a. En fait, je pense qu'il y a un soupçon de conscientisation, mais je pense que bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour ce qui est de la décolonialité, en fait, de la question de l'antisémitisme, on n'a pas abouti la réflexion à ce propos. En fait, je pense que la question de l'antisémitisme, si on pose un prisme décolonial dessus, on peut aller très loin, on peut vraiment très vite se rendre compte que être juif, à cause de la domestication liée à la pensée moderne, à la question de l'État-nation, les juifs ont été... Enfin, il y a eu vraiment une volonté de casser la conscience juive dans les subjectivités, dans les corporalités, dans le rapport au temps, dans le rapport à l'espace, dans le rapport à l'identité aussi, le fait qu'on nous demande d'être français avant tout. Puisque voilà, l'État-nation, c'est ça, c'est avoir une identité nationale territorialisée. Bon, bah, ça, c'est encore une fois imposer un type de construction de soi par rapport aux juifs. Donc, déjà, on pourrait appliquer la question de la décolonialité à ce niveau-là. Je pense aussi que ce qui est difficile à peut-être véhiculer, c'est l'idée que la judaïté, c'est pas un truc opaque qui nous coupe du reste du monde. En fait, on peut très bien être juif et se sentir algérien, en fait. Et je pense que la décolonialité, elle devrait aussi se pousser par rapport à ça, à cette idée de superposition des identités et de pas essayer de faire prévaloir une identité par rapport à une autre. Je pense que ça, c'est des choses qu'on pourrait travailler dans les milieux antiracistes, même s'il y a déjà énormément de... Enfin, s'il y a déjà beaucoup de taf, et je comprends que tout le monde soit occupé par ses propres luttes. Je pense qu'on pourrait vraiment faire alliance sur la question d'une décolonialité poussée et généralisée.
Ouais. Je voulais aussi répondre un peu à cette question par rapport à ce que l'antisémitisme contemporain est entendu et reconnu. Et je pense que ce qui me fait dire non, c'est le mot contemporain. C'est-à-dire que je pense qu'une partie de l'antisémitisme est effectivement reconnue par une partie de la population. Mais ça va être plus à être un antisémitisme par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui en Europe, quand même, sont capables de dire que les nazis, c'est pas bien, c'est méchant, et les juifs ont beaucoup souffert à cause des nazis. Mais ça s'arrête un peu là, en fait. Et par rapport au mouvement activiste antiraciste d'autre part, je pense que, bah, comme disait Alexia, il y a une sorte de sensibilisation qui est pas la même, parce que c'est des gens, voilà, qui sont quand même un bagage politique a priori au moins un peu important, mais je pense que c'est pas exactement les mêmes formes d'antisémitisme qu'on peut retrouver partout. Et moi, j'ai été 3 ans à l'UNEF, bon, il y a un moment déjà, mais j'ai passé 3 ans en tant que militante à l'UNEF, voilà, les blagues antisémites, c'était régulier, en fait. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était des blagues, attention. Et du coup, ouais, c'était toujours des blagues, mais au bout d'un moment, ça devenait plus très drôle. Et en tout cas, ouais, c'était quelque chose quand même qui était très présent, de dire, mais toi, on ne mettra pas en trésorerie, tu comprends bien pourquoi, des choses comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, c'est lourd, en fait. Et ça, je pense que les blagues, c'est... On se demandait tout à l'heure, est-ce qu'on vit encore de l'antisémitisme aujourd'hui? Moi, je pense que le truc qui saoule le plus, c'est ça, en fait, c'est les blagues qu'on sent quand on dit qu'on est juif. Et voilà, et on dit que c'était des blagues, mais il n'y a pas eu que ça à une soirée avec que des gens du syndicat étudiant, une camarade avec qui je me suis engueulée ce soir-là, je ne sais plus pourquoi, un truc sans raison. Elle était un peu alcoolisée, certes, mais elle m'a regardée droit dans les yeux et elle m'a dit « retourne à Auschwitz ». Et ça a été vraiment un truc où... et c'était pas surtout dans la rigolade, quoi. Et en fait, littéralement personne n'en avait rien à foutre. Enfin, vraiment, c'était un truc genre, bah, c'est bon, elle était bourrée, machin et tout. Et cette meuf, l'année d'après, elle est passée présidente de l'UNEF de la section de ma fac. Du coup, ouais, ça, je l'avais un peu mauvaise, quoi. Je pense que ça, en tout cas, je pense que ça révélait quand même quelque chose. Je sais pas, enfin, ça paraît faire quelque chose comme ça. Mais bon. Du coup, ouais, je pense que même dans les milieux activistes de gauche, alors après l'UNEF, ils sont pas spécifiquement anti-racistes, mais en tout cas, ils se présentent de gauche, quoi. Du coup, pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez présent.
Pour rebondir sur l'antisémitisme dans les milieux militants en général, je me souviens quand j'étais encore à la fac à Paris 8, on avait tout bloqué. Tout occupé, et il y avait un amphithéâtre qui avait été occupé pour parler justement d'un truc qui se montait, ça s'appelait le rap, je crois. Bon, tout le monde faisait ses interventions dans le calme et la bonne humeur. Tout d'un coup, un mec est sorti de nulle part et a pris la parole pendant peut-être une demi-heure, donc j'exagère un peu, mais très longtemps, pour expliquer qu'il ne fallait pas dire antisémitisme, mais anti-judéité. Et que anti-judaïsme, pardon, et que de fait les juifs n'étaient pas racialisés, alors que, enfin, vraiment personne n'avait abordé le sujet avant, donc c'était vraiment une volonté de sa part de nous ramener sur le sujet et de nous nier notre racialisation. Et je me souviens avoir pris la parole pour lui répondre, et au final il avait été décidé que les juifs ne rentraient pas dans la non-mixité racisée du rap de l'époque. Enfin, du rap, pas le rap, mais c'était riposte autogéré, autonome, je sais plus. enfin, on s'en fiche, mais voilà, de cette organisation. À ce propos, il y a une question qui a été posée dans le chat. Quelles différences on fait entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme ? Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme antisémitisme pour décrire l'oppression que subissent les Juifs ?
Je peux répondre à ça, si tu veux.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Très rapidement. En fait, c'est tout simplement assez historique, c'est-à-dire que concrètement, en vrai, si vous dites antisémitisme, antijudaïsme, ça désigne la même chose. Je sais que il y a des débats sur l'étymologie du mot antisémitisme, mais en fait, au bout d'un moment, l'étymologie pure des mots, en fait, c'est pas tout ce qui compte pour faire la signification d'un mot. Et antisémitisme, il a un bagage historique, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on l'utilise, et c'est le mot qui est le plus utilisé dans à peu près toutes les langues, en tout cas toutes les langues que je connais. Du coup, a priori, en fait, concrètement, j'ai pas trop de raisons a priori d'en utiliser un autre. Il y a pas de voilà pourquoi on utilise le mot racisme, pourquoi on utilise le mot homophobie. J'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Étymologiquement parlant, on pourrait questionner aussi ces mots, mais en fait, non, c'est ceux qu'on utilise, c'est ceux qui sont compris par le plus grand nombre. Voilà. Personnellement, c'est pour ça que j'utilise le mot antisémitisme, parce que historiquement, c'est celui qui a été utilisé le plus. Et que c'est, voilà. Après, si vous voulez dire antijudaïsme, vous dites antijudaïsme. La différence, c'est que aussi antijudaïsme, ça met un peu l'accent sur la religion juive, concrètement. Alors que c'est vrai qu'à la base, quand on parle d'être juif, pour nous, en tout cas, c'est pas juste une question religieuse. C'est aussi une question culturelle. Du coup, c'est aussi pour ça que je trouve que l'antisémitisme, ça fait plus sens.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les sujets qu'on a pu aborder au cours de l'émission, ou est-ce qu'on passe à la suite ?
Non, je pense que...
Si dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Pour rebondir sur ce que Laure a dit, je suis complètement d'accord. Et puis, je pense aussi que dans l'antisémitisme, il y a l'idée... Enfin, dans l'antijudaïsme, il n'y a pas l'élément racialisation des Juifs, en fait. La composante ethnique à laquelle on peut être renvoyé ou alors qu'on s'approprie soi-même. Il y a la culture. Enfin, pour moi, la judaïté, c'est un triptyque, en fait. Enfin, c'est la composante culturelle, potentiellement la composante ethnique. Et puis, voilà, si on se sent... de se lancer dans une spiritualité particulièrement juive, alors oui, ce sera du judaïsme. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'emploie le terme antisémitisme pour ma part, en plus des raisons évoquées par Lior concernant l'histoire du mot.
D'accord.
Après, je voulais rajouter, moi, la campagne, c'est pas la religion qui pose problème, hein. C'est juste qu'on soit juif et qu'on l'assume, quoi. Souvent, les réflexions n'ont rien à voir avec la religion, d'ailleurs. Tu vois, ça rebondit sur ce que Alexia vient de dire.
Oui, donc c'est vraiment le côté racial qui pose problème et pas le fait qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le rôle de Jésus, quoi.
Oui, voilà, exactement.
D'accord.
Exactement.
Alors, plusieurs questions en une. Il y a Smad Anchor qui demande si on connaît des médias qui parlent d'antisémitisme correctement. J'ai mentionné les juifs et juives révolutionnaires et les juifs vénères. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Apparemment pas. Du coup, on passe à la question suivante. Est-ce que vous connaissez des ouvrages à conseiller sur l'histoire de l'antisémitisme ? Michou ajoute, on pense souvent à Poliakov, mais il y a des auteurs juifs, par exemple, point d'interrogation.
Ça dépend si tu veux quelque chose sur l'histoire de l'antisémitisme en France, en français ou pas. c'est un peu large. Personnellement, je connais pas trop la littérature francophone à ce sujet-là, mais si vous lisez l'anglais et que vous vous intéressez à l'antisémitisme en Pologne, par exemple, il y a le travail de l'historien Jan Gross, qui est assez intéressant. Donc, par exemple, et il y en a un autre, mais son nom m'a échappé à l'instant. Si je le retrouve, j'ajouterai.
On pourra vous mettre les références dans un thread Twitter à la fin de l'émission. Ou demain. Voilà, voilà, voilà. Pour le moment, on est plutôt pas mal, je trouve. Alors, il y a beaucoup de messages, je n'arrive pas à suivre. Sur la définition de l'antisémitisme moderne, il y a la lumineuse définition de Moïse Postron dans son article trouvable en ligne « Antisémitisme et national-socialisme ». Bah écoute, on lira ça avec attention tout à l'heure.
Après, il y a Delphine Horviller aussi qui a écrit un petit livre sur l'antisémitisme en France.
Alors, pour ceux qui ne situent pas, Delphine Horviller, c'est une rabbine à Paris. Du coup, voilà. On peut peut-être passer à la partie suivante si vous n'avez plus de questions. Après tous ces récits d'oppression, comment vous vivez votre judaïté aujourd'hui ?
Ben, pour ma part, ma judaïté, moi, c'est une question de résilience, en fait, de lutte contre l'appropriation des histoires juives, des judaïtés par différents types de nationalisme. Que ce soit le national, enfin que ce soit le roman national français, le roman national israélien ou les romans nationaux d'autres régions du monde. Donc il y a cette question de la résilience en fait de revenir à cette à ces éléments culturels et épistémiques aussi qui peuvent être propres à la judaïté et qui ont été domestiqués par la philosophie moderne et les États-nations. Et puis ma judaïté, j'essaie aussi d'en faire un vecteur de questionnement par rapport aux problématiques politiques qu'on a en ce moment, aux questions de discrimination, d'oppression systémique, et puis aux questions identitaires, en fait. Enfin, je pense que la judaïté, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'essaie d'articuler avec... C'est quelque chose qui me mène à questionner tout l'arbre généalogique de ma famille, en fait, et tout le rapport qu'on peut avoir à l'Algérie, notamment. Enfin... C'est vraiment une question. La colonisation de l'Algérie, c'est vraiment assez particulier vis-à-vis des Juifs. Et du coup, pour moi, c'est. En tout cas, ma judaïté, pour moi, c'est une question de résilience, un vecteur de politisation, un vecteur de questionnement de l'ordre social dans lequel on est. Et puis un questionnement vis-à-vis de la colonialité, en fait, parce que. Que les Juifs, en fait, peu importe quel type de quelle région du monde on est, hein, qu'on soit un Juif ashkénaze d'Europe de l'Est ou un Juif séfarade d'Espagne, de Grèce ou un Juif du Maghreb, en fait, dans tous les cas, en France, les Juifs sont mis du côté de la tradition, de l'archaïsme, qu'il faut absolument domestiquer dans une vision évolutionniste du monde, en fait, pour arriver à la modernité. Et ça, c'est la base du projet colonial européen. Donc, de toute façon, la judaïté, qu'on soit des Juifs qu'on soit issu de familles ayant vécu directement la colonisation, de toute façon, on est, quoi qu'il arrive, lié à la question du projet colonial. Et on doit, enfin, pour moi, c'est une identité qui, au-delà du fait que je me sente aussi algérienne, me rapproche des combats politiques des autres personnes racisées.
Voilà. Priel, est-ce que tu veux dire
quelque chose? Oui, je veux bien. Alors, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'assumer ma judaïté, en partie à cause de ce qui s'est passé pendant une grande partie de ma scolarité. Ça m'a quand même fait, ça m'a pas mal détruite, et du coup, ça a été un long chemin pour l'assumer, tout en ayant conscience que c'est pas un étendard, c'est pas une mode. Ça a été beaucoup de réflexions aussi là-dessus, que ce soit pas une mode, quoi. Parce que c'est une question aussi que je me suis pas mal posée. Et du coup, ça a été beaucoup de réflexions sur ce que je suis, ce que ça veut dire dans la société et comment le vivre sans que ce soit, je sais pas, un totem d'immunité pour X ou Y raison, quoi. Et ça a été un long cheminement, mais... Depuis que j'en ai conscience, depuis que je l'assume, je peux quand même dire que je vais beaucoup mieux en tout cas. C'est plus un fardeau comme Alexia l'a dit tout à l'heure. C'est plus un fardeau, c'est juste moi et je suis juste moi quoi. Je le vis et c'est voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est plus une souffrance quoi. C'est plus un poids à porter quoi. C'est ou à cacher surtout. C'est juste moi qui vis en étant juive et puis voilà, tranquillement, quoi. Mais ça a pris beaucoup d'années, en tout cas. Ça a pris beaucoup de temps, quoi.
Je te rejoins sur le point que j'ai mis très longtemps à assumer ma judaïté, parce qu'on en discutait la dernière fois, mais moi, j'étais dans les cercles d'extrême-gauche, pour parler largement. Très jeune, vers 12-13 ans, c'est les seules personnes, entre guillemets, que je côtoyais. Et du coup, j'ai appris très très tôt à être antisémite comme on l'est à gauche, donc à fond pro-Palestine, Israël, c'est des colonisateurs, enfin, vous voyez le tableau. Et j'ai gardé ce discours-là très 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 longtemps. En 2018, quand mon grand-père est mort, l'une des dernières choses qu'il a dit à un membre de ma famille me concernant, c'était « Tu diras à Salomé. Tu diras à Salomé à quel point Israël, c'est important pour nous. » Et à ce moment-là, j'ai compris que mon grand-père était mort en étant persuadée que j'étais antisémite. Et ça m'a fait mais terriblement de mal de savoir que je lui avais causé autant de souffrance, autant de peine. Parce que bah, mon grand-père, vous vous en doutez, il était juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je ne sais pas s'il est né en Ukraine ou s'il est né en France, mais bon, c'est pas un parcours facile. Il était dans une famille résistante. J'ai été très, très touchée, impactée par cette nouvelle. Et à ce moment-là, j'ai compris et j'ai assumé ma judaïté, mon judaïsme. Et ça a été un véritable choc. Mais avant ça, j'en avais honte. J'étais antisémite moi-même parce que je répétais ce qu'on m'avait enseigné. Et un exemple un peu représentatif, je pense, de ces mouvances-là, c'est que ma famille était plutôt classe moyenne sup, mais enfin, c'était pas les personnes les plus riches que la terre ait portées. Et on m'a fait culpabiliser d'avoir cette position sociale tellement qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je lui disais « Tu sais, ma famille, elle est riche. Tu sais, ma famille, elle est riche. » Et il fallait absolument que tout le monde le sache, parce que sinon, j'étais une traîtresse. Et j'ai compris que récemment, que en fait, la plupart des gens avec qui je discutais, ils avaient le même rang social que moi. Et si on s'était à ce point acharné à me dire qu'il fallait absolument que je dise que j'étais juive, c'est parce que les juifs sont riches et que du coup, c'était un ressort antisémite. Mais du coup, moi, je me suis vraiment rapprochée de mon identité juive quand j'ai compris que j'étais antisémite moi-même.
Oui, voilà. je te rejoins là-dessus aussi. Enfin, moi aussi, je pense que pendant longtemps, j'ai été antisémite, notamment jusqu'à mes 18 ans. Et, enfin, voilà, 7 ans d'établissement catho. Et un peu pareil que toi, Salomé, en fait. Quand ma mère est décédée, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je préserve son héritage, en fait. Et c'était quelque chose d'important pour elle, et je sais que pour moi, c'était pas quelque chose de supportable d'être juive, mais je me dis que c'est quand même terrible que pour toi et moi, et je pense pour beaucoup d'autres personnes juives, il faut qu'on se confronte au décès de quelqu'un qui nous est cher pour comprendre l'enjeu de préservation qu'il y a derrière, quoi.
Complètement, complètement. Lior, est-ce que t'as quelque chose à ajouter?
Ouais, du coup... La judaïté pour moi aujourd'hui, c'est d'abord quelque chose de très familial. Pour moi, la famille a vraiment une grande importance et c'est très lié en fait au contexte juif, parce que chez moi, j'ai toujours célébré toutes les fêtes juives uniquement en famille, parce que là où j'ai grandi avec mes parents, on a grandi dans une petite ville, pareil, en banlieue lyonnaise, comme Alexia. Mais du coup, il n'y avait pas de synagogue. C'était trop petit pour qu'il y ait... Donc du coup, voilà, on se réunissait qu'avec la famille étendue, donc tous les cousins, les cousines. Enfin, et du coup, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très chaleureux, très familial. Donc c'est encore très important pour moi de pouvoir célébrer les fêtes juives, même si je suis loin de ma famille. Et ensuite, je voulais lire une citation, j'espère que ça fait pas trop gnangnan, mais c'est une citation que j'aime beaucoup d'une autrice polonaise. Et elle dit... Il me manquait ce gène qui fait que dès que l'on s'arrête un peu plus longtemps quelque part, on y plonge ses racines. C'est de l'autrice Olga Tokarczuk, qui est polonaise, mais pas juive. Mais cette citation, elle m'a beaucoup parlé parce que voilà, la judaïté pour moi, c'est un ancrage. J'ai beaucoup. Je vous parlais du cliché du juif errant, j'ai beaucoup bougé en fait. J'ai beaucoup déménagé depuis que je suis adulte, donc ces 10 dernières années. Et j'ai vécu dans tous les pays. à cause de mes études, à cause de mon travail. Et en fait, à chaque fois, ça a été un ancrage pour moi. Comme Alexia, je suis séparée, c'est-à-dire que ma famille sont juives du Maghreb, juives d'Algérie. Mais là, ces dernières années, j'ai été énormément au contact des communautés juives en Europe de l'Est, en Biélorussie, en Lituanie, en Hongrie et maintenant en Pologne, parce que maintenant j'habite en Pologne. Et en fait, ça a été tellement... encore une fois, j'ai retrouvé cette familiarité, cette chaleur. Voilà, rien qu'en allant à la synagogue, même dans une ville que je connaissais pas du tout, où en fait je connaissais pas grand monde, voire même personne, et de pouvoir partager ça, et de pouvoir, ouais, c'était une expérience incroyable. Et voilà, Alexia disait que même si il y a des séparations géographiques entre les Juifs, en fait, même s'il y a des différences, il y a aussi une certaine forme d'unité, et ça je l'ai vraiment ressenti parce que voilà, je suis séparable, mais malgré tout, quand j'arrivais dans une synagogue en Biélorussie ou en Lituanie ou en Hongrie, bah en fait personne m'a jamais fait remarquer que j'étais séparable. En fait, j'étais juste juive avec eux, et ça a été assez incroyable. J'ai appris le yiddish, donc je parle plutôt bien yiddish, je le lis plutôt bien, je le comprends, enfin voilà. Et là aussi j'ai rencontré des gens, enfin ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Et donc j'ai aussi commencé à apprendre l'hébreu, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis je suis plus intéressée par le yiddish concrètement, mais ouais, vraiment un ancrage, un sens de la communauté et de la famille, et une chaleur en fait, vraiment une chaleur, et ça c'est vraiment très très important pour moi.
Ah oui, moi je rebondis sur ce que Lior vient d'expliquer, c'est le fait aussi de rencontrer d'autres juifs. Parce que moi, je connais pratiquement pas de juifs IRL, mais de connaître, d'avoir la chance de rencontrer des juifs, bah, grâce à Twitter notamment, et de vous avoir rencontré, ça aide aussi à se remettre dans ce que ça veut dire d'être juif, dans le groupe, de partager des choses qui sont propres donc à notre communauté au sens large. Moi, ça m'a grave motivée pour, par exemple, apprendre le russe, des choses qui sont peut-être plus en rapport avec mon histoire familiale, mais c'est vrai que de connaître d'autres juifs, ça, c'est chaleureux, quoi. Moi qui ai toujours été isolée, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de bien aussi de retrouver le contact que j'avais avec ma grand-mère quand elle me parlait des histoires familiales, quoi. Et le fait de bouger, moi je vis en camion, je suis tout le temps sur la route, et toute ma famille a toujours beaucoup bougé, toujours erré pour survivre. Voilà, c'est un rapport assez particulier, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça, ouais. C'est assez.
On a une question dans le chat. N'y a-t-il pas une minimisation de l'antisémitisme à gauche? Si ça vous tente d'y répondre.
Je pense que oui, quelque part. Je pense que l'antisémitisme est souvent vu comme quelque chose, comme un fait social du passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis je pense aussi que, enfin, on parle de la gauche parce que personne ici n'est de droite, donc c'est pas des milieux qu'on connaît. Mais en tout cas, dans les milieux militants de gauche, il y a aussi, il y a vraiment cette assignation perpétuelle, enfin, en fait, il y a une assignation perpétuelle à Israël qui est antisémite. Il y a aussi l'instrumentalisation des réponses, en fait. C'est-à-dire que on va nous demander de nous positionner pour être les bons ou les mauvais juifs. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment pas forcément conscientisé, mais qui fait partie de l'antisémitisme manifesté de nos jours.
Oui, et je voulais juste rajouter que je pense que à gauche, il y a une minimisation du racisme dans son ensemble. Que pour moi, moi dans ma conception des choses, en tout cas, l'antisémitisme, c'est juste une sous-catégorie du racisme, on va dire. Mais le racisme dans son entièreté, je pense, est particulièrement minimisé à gauche. Pas que l'antisémitisme, notamment par la gauche blanche, universaliste, etc. Et du coup, ça peut être un peu difficile parfois parce que effectivement, si on est de gauche, on ne peut pas être raciste. parce que bon, bah, on sait que ça marche pas toujours comme ça. Et ouais, ça je pense que ça joue en tout cas dans la mini.
Je pense aussi que un truc qui est important à noter, c'est que je pense que beaucoup de militants de gauche ont peut-être l'impression de pas être antisémites, mais enfin dans ce podcast, dans cette émission là, on est quand même deux personnes juives à admettre qu'on a été antisémite à cause de la pression systémique et de la société dans laquelle on vit. Donc je veux dire, si deux personnes juives avec une histoire familiale assez forte et ancrée dans cette judéité ont pu l'être, je pense que c'est une preuve que vraiment on devrait tous se questionner par rapport à n'importe quel type d'oppression systémique.
Oui, complètement d'accord avec Alexia. Du coup, là, il nous reste une grosse demi-heure à passer avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous, y a des sujets que vous voulez qu'on aborde qui vous semblent importants? En sachant que les questions en lien avec le colonialisme, le lien avec l'islam et les arabités en règle générale, je les ai laissées de côté parce qu'elles feront l'objet d'une prochaine émission. Donc voilà, on les garde sous le coude et on y répondra un peu plus tard.
Je voulais juste dire un truc parce que du coup, le but de l'émission, c'était effectivement de parler de l'antisémitisme, mais on en a parlé toutes les quatre quand on préparait l'émission. Mais moi, ce qui me semblait aussi important à rajouter, c'est que et c'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en disant que moi, à la base, j'étudie l'histoire des Juifs et pas spécifiquement l'histoire de l'antisémitisme, parce que du coup, moi, ça me semble très important aussi de rappeler que être juif, il y a aussi, enfin, l'histoire juive et l'histoire des Juifs, il y a aussi plein d'autres trucs positifs. Heureusement. qu'il y a encore une vie juive aujourd'hui et il y a encore des juifs qui vivent là, qui pratiquent, qui célèbrent leur judaïté, que ce soit culturellement ou religieusement. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'on oublie des fois. La façon dont on parle des juifs souvent, c'est très passif, en fait, c'est très passéiste, très, et en fait, et parfois quand j'entends des juifs américains, parce qu'il y a quand même une très grosse communauté juive aux États-Unis très active, même peut-être un peu plus en Europe, je sais pas, ou même des Israéliens, bon bah forcément on peut dire que la culture juive est encore très présente, qui parlent de l'Europe comme voilà le vieux continent, le cimetière des juifs, etc. Et moi ça me heurte un peu à chaque fois. Parce que ok, on a une histoire tragique, mais on n'est pas juste un cimetière et il y a énormément, enfin il y a quand même une bonne vie juive en France notamment, mais pas que. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et pareil, on a tendance à penser que voilà, en Pologne il y a plus de juifs, en Biélorussie bon, de toute façon c'est pas trop où c'est, en Lituanie voilà. Et en fait bah non, il y a encore une vie juive même dans ces pays-là. Moi, là, j'habite en Pologne, on a une synagogue et je peux y aller tous les vendredis soir. Enfin, pas en ce moment, c'est solide, mais, voilà. Et, il y a des écoles juives, il y a vraiment une vie juive. Si vous allez à Cracovie, en Pologne, par exemple, il y a un centre communautaire juif où il y a plus d'une centaine de personnes qui viennent, prendre des cours, qui viennent, apprendre le yiddish, l'hébreu, l'arabe, même, qui viennent, préparer leur bar mitzvah, même s'ils ont plus de 40 ans. Et ouais, il y a encore une vie juive et j'ai été très étonnée même voilà dans cette petite ville de l'est de la Biélorussie à la limite de la Russie, il y avait une synagogue et il y avait des gens qui allaient à l'office tous les week-ends et qui mangeaient ensemble après et qui nous ont accueillis à bras ouverts. Enfin voilà, il y a vraiment une vie juive en fait aujourd'hui et il y a eu un court métrage il y a pas longtemps sur Arte qui est passé et qui est très super intéressant sur un jeune juif en Allemagne aujourd'hui qui en a marre d'être on va dire non violent et poli quand il se passe cet antisémitisme. Ça s'appelle Mazel Tov Cocktail, je crois. Et ça c'est aussi important en Allemagne. Il y a aussi une grosse communauté juive maintenant qui est revenue et notamment parce que c'est une majorité de juifs russes ou ukrainiens qui ont émigré en Allemagne et qui ont un peu comment dire, refait vivre la communauté juive allemande avec leur propre synagogue, etc. Et j'en ai rencontré plusieurs à Berlin et voilà, et qui font leur c'est vrai que du coup ils font encore leur médecine en russe, etc. Mais en tout cas, ils gagnent une vie. Et Et il y a un artiste que j'aime beaucoup. Il y en a deux, en fait, dont je voulais vous parler rapidement. Il y a le groupe Awa, qui sont des juifs d'origine yéménite, qui font de la musique en arabe du Yémen, du coup. Et qui sont vraiment très chouettes. Et il y a un artiste germano-américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Kahn, qui est très gauchiste, très engagé politiquement, et qui fait beaucoup de chansons en anglais, en yiddish, et qui essaye de faire un peu revivre cette culture juive. Et d'ailleurs, il a fait un film, si vous avez Netflix, le film est sur Netflix, ça s'appelle L'Exode de l'âme, si je me souviens bien, et qui parle un peu de voilà comment aujourd'hui il fait revivre, comment il fait vivre tout court, en fait, cette culture juive un peu gauchiste en Europe et aux États-Unis.
Je rebondis un instant sur le fait que tu aies mentionné le repeuplement des Juifs en Allemagne par les Juifs d'Europe de l'Est, notamment de Russie. Il y a un excellent court-métrage qui a été posté sur Arte, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Mazel Tov Cocktail, Mazel Cocktail, quelque chose comme ça. Et il est très très bien réalisé, il explique très bien tout ça. Donc je vous le conseille vivement, on le mettra dans le thread des sources qu'on aura évoquées aujourd'hui.
Oui, et puis je voulais juste ajouter par rapport à ce que Lior disait, que oui, il faut penser la judaïté uniquement en termes d'oppression, c'est pas ce qu'il y a de plus productif, et qu'il y a un vrai enjeu aussi à préserver nos cultures diasporiques. En fait, je pense que c'est à la fois une question, enfin il y a un enjeu culturel et... Bon, c'est pas pour faire pas tomber dans le cliché, mais pour dire santé, en théorie, pendant Shabbat ou autre, quand on trinque, en fait, on dit pas santé, on dit l'echaim, ça veut dire à la vie en hébreu. Et donc, il y a quelque chose de vraiment, je dirais pas inhérent au judaïsme, mais la célébration de la vie et de la présence sur terre, et le simple fait d'être en vie après des tentatives répétées d'extermination au cours des 5000 dernières années, pour moi, c'est ce qui caractérise la judaïté, en fait.
Ah oui, tellement d'accord. L'Eraïm, c'est bien notre vie, quoi. On est en vie, c'est parce qu'on a lutté, qu'on ne faut pas nous voir que par la mort, quoi. C'est exactement ça. Ça me rappelle exactement ce que mon beau-père m'a dit cette semaine, où on est vu uniquement par le prisme de la mort, des massacres, des pogroms et de la Shoah, comme si c'était uniquement ce qui nous faisait, uniquement notre histoire, en fait, alors qu'on a eu une vie avant la Shoah, il y a eu une vie après, et c'est bien aussi de pouvoir en parler, que ça reste dans le positif.
Les Haïm, tout le monde. On a une question sur le chat. Que pensez-vous de l'absence de considération de l'antisémitisme dans le livre « Racisme de France » et le fait qu'on dirait que tout le milieu antiraciste s'en fiche, et il admet que la question est orientée?
Oula, vaste question.
J'ai peur qu'on réveille encore de l'humidad si on réaborde ce sujet. J'ai peur qu'on réveille à nouveau Dominique Vidal si on repart sur ce sujet. Il n'a pas très bien réagi quand on a critiqué son article.
Ah oui.
Il nous a comparé aux nazis, aux sionistes, le CRIF, le DETAR, les SA.
La LDJ.
Voilà, tout ça en même temps.
Est-ce qu'on peut juste souligner que traiter des juifs de nazis, c'est fondamentalement antisémite quand même, enfin, mon Dieu.
Oui, on peut le souligner et on le fait.
Et instrumentaliser son histoire familiale, c'était pas non plus très très correct, quoi.
Oui, bien sûr.
Carrément, ouais.
Je sais pas si tous les gens ont le contexte, mais en gros, le collectif Juifs et Juifs Révolutionnaires ont fait un texte pour interpeller Dominique Vidal, donc le journaliste qui a écrit l'article. Le chapitre dans l'ouvrage Racisme de France sur l'antisémitisme, et parce qu'on a trouvé que le chapitre était mauvais, en fait, notamment parce qu'en fait il parle de l'antisémitisme que sous le prisme de l'antisémitisme, et du coup on trouvait ça un peu dommage d'avoir un seul chapitre sur l'antisémitisme et qu'en fait ce soit même pas sur l'antisémitisme, et Dominique Vidal donc a très très mal réagi, voilà ce qu'on entend
sur un livre qui a l'air très intéressant et d'avoir loupé le coche sur l'antisémitisme, alors qu'on a cruellement besoin d'avoir de la visibilité pour en parler correctement. Ça, c'est vraiment dommage que ça se soit passé comme ça.
Complètement d'accord avec la camarade.
Et j'ajouterais une chose, le fait qu'à chaque fois qu'on mentionne l'antisémitisme, indépendamment du milieu d'ailleurs, que ce soit les milieux antiracistes, les milieux de gauche, peu importe, on nous ramène à l'antisionisme. C'est une forme d'antisémitisme à mes yeux, dans le sens où on ne peut pas aujourd'hui parler de ce que les Juifs subissent sans qu'on nous parle d'Israël. Et j'ai cru remarquer, et vous me direz si je me trompe ou si je suis un peu dans le vrai, mais j'ai l'impression que même les gens d'extrême droite ont changé leur vocabulaire de sorte à dire qu'ils sont antisionistes et pas antisémites, alors qu'ils tiennent exactement les mêmes discours. Sauf qu'en se cachant derrière ce nouveau terme, on leur octroie un laissez-passer, enfin, je ne saurais pas comment l'exprimer autrement, mais vraiment une liberté de parole démesurée, alors que c'est absolument immonde et innommable ce qu'ils peuvent raconter par ailleurs.
Oui. Le truc, c'est que l'extrême droite, en faisant ce qu'ils font, c'est-à-dire en utilisant le terme antisionisme, sont surtout en train de noyer le poisson, quoi. Ils font croire qu'ils s'intéressent à la cause palestinienne alors que c'est faux, pour pouvoir mieux être antisémite sans avoir l'air d'être antisémite. Et c'est là aussi le problème pour nous après de pouvoir parler antisémitisme en toute clarté, quoi. Les gens, ils mélangent tout. Le sionisme, c'est plusieurs siècles d'histoire qui aujourd'hui est résumé à égal pro-palestinien, mais c'est tellement plus complexe que ça. Et c'est un sujet extrêmement tabou. C'est un sujet délicat, on est bien d'accord, mais on devrait aujourd'hui pouvoir parler de l'antisémitisme qui sévit en Europe et en France, tout en étant capable de parler de la situation en Israël, qui sont deux situations différentes, même si dans l'histoire elles se croisent, évidemment, mais utiliser la cause palestinienne pour nier l'antisémitisme en France, c'est quand même un manque de respect aussi pour les Palestiniens, quoi. Et en sachant qu'en Palestine, il y a aussi des Palestiniens qui demandent à ce qu'on arrête de se servir d'eux pour être antisémites en Europe. Donc, il y a une multitude de problèmes qu'il faudrait éviter d'amalgamer les choses, quoi.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, enfin, personnellement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense qu'il y a effectivement... Bon, après, je tiens à dire que, voilà, évidemment, n'étant pas palestinienne, je ne suis pas en position d'effectuer une analyse politique de leur instrumentalisation, mais c'est vrai que souvent, le conflit israélo-palestinien est utilisé pour amoindrir la question de l'antisémitisme et amoindrir la question de la racialisation des Juifs. Enfin, pour moi, la racialisation des Juifs, c'est quand même un point central de l'antisémitisme qui est aujourd'hui vraiment nié, quoi, et ça pose problème.
Alors, je ne suis pas palestinienne, mais je suis libanaise. Et à chaque fois que quelqu'un apprend que je suis libanaise et juive, la question revient de « Ah, mais du coup, vous avez résolu le conflit israélo-palestinien. » Et c'est très, très lourd. Et évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Évidemment, c'est un sujet complexe et qu'il faut l'aborder. Mais le lier systématiquement avec l'antisémitisme, voire le rempalasser, le substituer à l'antisémitisme, c'est un énorme problème, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Si vous n'avez plus de questions et si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous propose qu'on conclue notre émission là-dessus, si ça vous va.
Ouais.
Bon, et bah, les Haïm, tout le monde.
Les Haïm,
ça me va.
Bonne soirée.
Bonne soirée.